Et on est toujours à l'écoute de l'émission Passe-Muraille sur Radio Galère 88.4. Et on va continuer cette émission avec un peu d'actualité de ce qui s'est passé de ci, de là, dans les prisons. Et on va commencer par parler d'un procès qui s'est tenu début novembre, c'était il me semble le 7. Un procès pour une pseudo-tentative d'évasion des Baumettes. Alors c'est l'histoire de Laurent qui, le 31 mars dernier, est sorti de l'infirmerie et a suivi quelqu'un pour réussir à passer plusieurs sas. Il s'est retrouvé jusqu'au dernier endroit, à la cour d'honneur. Et donc voilà, il est passé en procès pour cette pseudo-tentative d'évasion, qu'il a réussi à passer des sas que les prisonniers ne sont pas censés passer, et en même temps... On peut dire que c'est pas vraiment de son fait. Donc voilà, lui, il a raconté cette histoire comme ça, un peu en quelque chose de spontané et de pas vraiment réfléchi, auquel il croyait pas vraiment, et puis qui s'est produit, quoi. Et voilà, le procureur, de son côté, lui, il a qualifié cette version du prisonnier de romanesque et il a accusé de tourner en dérision l'institution. Résultat, il a été condamné au final à 3 mois supplémentaires. Et surtout, depuis les faits, donc depuis le 31 mars, c'est quelqu'un qui est en prison depuis octobre 2012 et qui est en attente d'ailleurs d'une condamnation définitive, qui est prévenue, quoi. Et depuis donc le 31 mars, il se retrouve au quartier d'isolement. La presse le qualifie même de détenu le plus surveillé des Baumettes. Donc voilà, c'est quelque chose qui est assez hallucinant, puisque au final... on peut pas vraiment parler de tentative d'évasion.
Apparemment, il était plus en mode blague et étonné de là jusqu'où il pouvait aller. Ouais.
Et puis c'est quelqu'un qu'on sait qu'a un tempérament plutôt tranquille par ailleurs d'ailleurs.
Cher ami Laurent, avec qui on a changé beaucoup de lettres, beaucoup de discussions, beaucoup de moments vécus. Et donc on peut dire que Laurent c'est plutôt quelqu'un super calme qui ne voulait même pas savoir d'aucune lutte, ce qui a mené à notre discussion beaucoup de fois, même à dispute. Donc on parle de quelqu'un qui, je pense que vraiment n'avait même pas dans sa tête faire une tentative d'évasion, vu que l'une chose qu'il voulait, c'est passer le plus calme possible sa détention pour revoir et être à nouveau avec sa fille. Même le dernier époque, il voulait faire une remettre en forme, c'est-à-dire reprendre le sport, étudier, lire, et reprendre même la communication, vu qu'il est quelqu'un assez un petit peu plutôt solitaire. Donc c'était dans cette perspective, mais il a vécu très mal dans la longue attente de son dernier procès, c'est-à-dire sans savoir rien de sa future vie, que je pense que c'est la plus naturelle du monde. Donc je pense qu'il a profité juste un petit moment de voir une possibilité de sentir l'air frais, que c'est le plus naturel et plus humain du monde, qu'on ne peut pas être tellement soumise, non, même la personne plus calme, tellement soumise, de sentir qu'on lui fait sentir l'air frais et encore retourner en cellule, non? Donc, comment on peut arriver? Donc, je demande jusqu'à quel point on veut casser quelqu'un, donc le plus calme peut-être des Baumettes, pour retrouver dans la situation d'être le plus surveillé des Baumettes aujourd'hui comme un super dangereux. Voilà.
Voilà, ça montre un peu comment la prison casse aussi les individus, quels qu'ils soient, quel que soit leur tempérament à la base. Et voilà.
Exactement, donc c'est plutôt mieux lutter, non? Oui, déjà, si on se retrouve de toute façon à l'isolement, tant que faire. De toute façon, tu te retrouves à l'isolement. Voilà.
Et du coup, pour parler cette fois d'un truc qui s'est passé dans le Pas-de-Calais, donc là, du coup, c'est une évasion réussie. Si jamais vous vous retrouvez à la maison d'arrêt de Béthune, dans le quartier C, il faut savoir qu'à partir de là, à partir de la cour de promenade du quartier C, il y a juste un grillage apparemment à sauter, quoi. C'est ce que nous dit la Voix du Nord. Et donc, y a un gars de 28 ans qui était en détention provisoire depuis pas très longtemps, depuis le 18 novembre, en fait. Et qui est parti comme ça, à partir de la promenade. Il a escaladé un grillage samedi dernier. Et des recherches se poursuivent ce dimanche et ce lundi aussi pour le retrouver. Et nous, on lui souhaite de courir dans les champs.
Continuer bien sa route, loin des murs.
Voilà. On avait une dernière petite brève, non ?
Oui, ça s'est produit hier à la maison d'arrêt. Non, pas à la maison d'arrêt, au centre pénitentiaire de Valence. Et plus précisément au quartier Maison Centrale. Donc hier, au retour de promenade, vers 11h45, il y a deux détenus qui ont réussi à soutirer les clés d'un surveillant, en le menaçant avec une arme artisanale. Donc ils ont récupéré les clés, ils ont ouvert toutes les portes de cellules du bâtiment. Il y a des incendies qui ont été déclenchés dans plusieurs cellules. Les caméras de surveillance qui ont toutes été détruites. Voilà, donc ça c'était hier, dimanche. Il y a les ERIS qui sont arrivés vers 14h à une trentaine de personnes qui ont mis trois quarts d'heure pour reprendre le contrôle du bâtiment. Il faut savoir que c'est la seconde mutinerie en deux mois dans ce quartier Maison Centrale du centre pénitentiaire de Valence, puisque le 25 septembre dernier, déjà, il y avait une mutinerie avec près de 70 000 euros de dégâts qui avaient été enregistrés à ce moment-là, quoi.
C'est vrai que du coup, apparemment, hier, depuis l'extérieur, il y a des détonations qui ont été entendues là, au moment de l'intervention des ERIS. Et qu'est-ce que je veux dire ? J'ai oublié ce que je voulais dire aussi.
En tout cas, on a une pensée pour les mutins du quartier Maison Centrale de Valence. D'autant que c'est une toute nouvelle prison qui a été ouverte il y a un an. Et voilà, ça montre que même dans les nouveaux lieux d'enfermement, même quand il y a... on va dire un peu plus de salubrité qu'ailleurs, ça n'empêche pas les révoltes. Et même quand on est condamné à des très longues années de prison, comme c'est le cas pour les gars qui sont dans les quartiers Maison Centrale, on ne perd pas espoir de se battre. Et, voilà.
Et qu'une prison reste une prison.
Ouais, je pense que c'est important de toujours rappeler ce genre de situation qui se passe un peu partout, parce que on a tendance à toujours imaginer qu'on n'est plus dans les années 80-90 et que du coup il ne se passe plus jamais rien dans les prisons en France ou en Europe ou ailleurs ces derniers temps, que tout est pacifié et calme et tranquille parce qu'il y aurait un peu plus la salle de sport ou quoi, et qu'en fait non, il se passe des choses et qu'il y a plein de personnes qui ne se contentent pas de ce qu'on leur offre pour que la détention soit un peu plus douce et calme, et qu'en fait il y a toujours des gens qui penseront à s'organiser, à être un peu solidaires entre eux et à juste pas lâcher l'affaire de l'idée de l'évasion, ou de juste toujours sera garder en tête que le maton c'est leur ennemi et pas juste quelqu'un avec qui il faut pacifier les rapports au quotidien.
Et donc ce sera rappeler que c'est une nouvelle fois une révolte et qu'il y en a eu d'autres ces derniers mois. Là, je pense qu'on en est pas loin d'une dizaine depuis le début de l'été.
Ouais, et puis il y a surtout ce gros mouvement aux États-Unis là, dont on avait trop rapidement parlé là, qu'il y avait le prison strike le 9 septembre, et apparemment il y a encore des trucs qui se passent maintenant à l'intérieur et à l'extérieur, en fait, à l'intérieur des prisons aux États-Unis et à l'extérieur, des mouvements de solidarité, il y a des manifs sauvages, des trucs comme ça aux États-Unis et en Europe aussi.
Et du coup, ça me donne l'occasion d'enchaîner avec la présentation du dernier numéro de l'Envolée, le numéro 45. Du mois de novembre, donc, qui revient avec un dossier sur cette grève des prisonniers aux États-Unis, et qui aussi fait la recension donc des dernières révoltes dans les prisons de l'Hexagone. Il y a aussi, bien sûr, comme toujours, beaucoup de lettres de l'intérieur. On va vous en lire une, voilà. Il y a un article sur l'agression d'un maton qui a été jugé sous la qualification d'acte terroriste, et qui traite aussi cet article des condamnations préventives, donc notamment dans les détenus caractérisés comme radicalisés, qui sont pour certains enfermés de manière préventive parce qu'ils auraient voulu se rendre en Syrie, etc. Il y a aussi un article sur la mort d'un prisonnier à la centrale de Saint-Martin-de-Ré, prisonnier qui est mort sans doute étouffé par les matons. Et un article qui présente un peu cette centrale de Saint-Martin-de-Ré, qui est quand même un gros établissement pénitentiaire, la plus grosse maison centrale de France. Et il y a un autre article sur la mort d'Adama Traoré, dont on a un peu parlé sur cette antenne, et dont on rappelle toute notre solidarité avec la famille, et notamment en ces temps difficiles, puisque les deux frères d'Adama ont été placés en préventive voilà, ces derniers jours. Et d'ailleurs, à ce propos, je ne sais pas à quelle heure, mais je crois qu'il y a une discussion pour organiser la solidarité avec la famille d'Adama Traoré qui va avoir lieu le 1er décembre à Manifestaine.
Je pense à 18h ou à 20h en début de soirée, quoi.
Ouais, vous pouvez retrouver les infos sur Internet, en tout cas. Voilà, dans ce numéro 45 de l'Envolée, il y a aussi un compte-rendu du procès de Christine Ribahi qui a eu lieu... cet été, face au Maton Droine. Un autre compte-rendu du procès aux assises de Kamel Bouabdallah, c'était le 21 juin. Voilà, donc, compte-rendu de ce procès. Donc, Kamel, on le rappelle, a pris 15 ans. Lui qui a été condamné en première instance à 25, il sera finalement donc condamné à 15 ans dans ce procès aux assises, où le collectif parle un peu de comment ça s'est passé. Il y a enfin, dans ce numéro de l'Envolée, également un entretien avec Aurore de Valence, qui se débat toujours face au juge d'application des peines et à cette machine bureaucratique qui menace de la réincarcérer. Et voilà, donc si vous voulez recevoir l'Envolée, que vous êtes à l'intérieur, c'est gratuit pour les prisonniers. Il suffit d'écrire à l'Envolée, 43 rue de Stalingrad, 93 100 Montreuil. Ou vous pouvez aussi nous écrire et on pourra s'occuper de vous abonner. Je rappelle l'adresse de l'émission, émission Passe-Muraille chez Radio Galère, 41 rue Jobin, 13003 Marseille.
Il y a aussi une adresse mail, c'est passe-muraille@radiosup.net. Et du coup, vous pouvez aussi, si vous pouvez, envoyer des mails et aussi des courriers. Du coup, je vais vous lire tout de suite une lettre qui est parue dans l'Envolée, qu'ils ont reçue. C'est la lettre d'une personne qui s'appelle Béa, qui est en ce moment à Rennes, à la prison centrale de femmes. Cette lettre, elle a écrit le 28 septembre. Et voilà, je vous la lis. Je m'appelle Béa, ça fait 5 ans que je suis en prison et je voulais vous faire parvenir ce témoignage. J'ai été incarcérée une première fois entre 85 et 89 ici à la prison de Rennes. À cette époque, j'étais mineure, mais après, la justice n'a plus entendu parler de moi pendant 30 ans. En 2012, j'ai été condamnée à une peine de perpétuité avec 20 ans de sûreté par la cour d'assises de Caen après avoir vengé mon fils et un autre garçon de 18 ans qui ont été séquestrés et violés pendant 5 mois par un gendarme à la retraite. D'abord, j'ai été incarcérée à la maison d'arrêt de Caen où je me suis pendue. Une surveillante m'a réanimée et suite à ça, j'ai été transférée à Rennes pendant 7 mois avant de revenir à Caen pour mon procès. Le procès a été très dur, mais je suis restée la tête haute. En mai 2015, j'ai passé 3 mois à Fresnes, au CNE, et là-bas, on m'a fait un bilan médical dans lequel ils ont trouvé que j'avais un cancer avec point d'interrogation et la consigne de faire des examens rapidement. À mon retour à Rennes, j'ai dû attendre 4 mois avant de passer les examens. Quand ils m'ont pris en charge, ils ont vu que j'en suis au troisième stade. En janvier 2016, j'ai vu l'ORL qui a confirmé le diagnostic. Les infirmières et les médecins ont eu très peur parce que le cancer est localisé au niveau des amygdales et j'étais gonflée comme un ballon. J'ai porté plainte auprès de la contrôleuse des prisons parce qu'ils ne m'ont pas prise en charge à temps. Maintenant, ils sont en train de faire une enquête, mais ça peut durer 3 ans. Je supporte mal le fait d'être enfermée à vie avec cette maladie. Le traitement est très dur. J'ai fait la radiothérapie 5 jours par semaine de mai à juillet et la chimio une fois par mois. Pour les extractions médicales, je suis escortée et menottée dans un camion de la pénitentiaire, pas dans une ambulance. Mais là-bas, j'ai des bons rapports avec le personnel médical. Les infirmières sont à l'écoute et tout se passe bien. Ils respectent le secret médical à la demande du médecin qui fait sortir les surveillantes. Ici, en détention, je ne peux pas être longtemps avec des gens parce que je me fatigue très vite. Je ne peux pas sortir en promenade parce que 45 minutes dehors, c'est trop pour moi. À cause de la fatigue, je reste presque toute la journée en cellule. Ils ont dû m'arracher toutes mes dents et je n'ai pas de régime alimentaire adapté. Ils me donnent des trucs liquides par sonde et des compléments alimentaires protéinés, mais il n'y a pas de purée. Heureusement, j'ai la solidarité des filles qui me font des soupes et des compotes que je peux bien avaler. La prison a beaucoup changé depuis ma première incarcération. Avant, l'ouverture des portes se faisait à 13h30 et nous étions obligés de passer la journée en commun. Aujourd'hui, nous pouvons rester en cellule si nous le souhaitons. Il y a plus d'activités et la médiathèque est plus grande. Par contre, les mesures de sécurité sont plus conséquentes. À l'époque, c'était plus facile de s'évader. Il n'y avait pas tous ces barbelés, les grillages des fenêtres pouvaient se dévisser avec une petite cuillère. Les surveillantes restaient plus entre elles et nous, les prisonnières, entre nous. À l'époque, il y avait plus de solidarité entre détenus. On ne se balançait pas, on ne parlait pas aux surveillantes comme on le fait aujourd'hui. J'espère m'en sortir. Ils m'ont dit qu'ils ne peuvent pas me guérir et le seul espoir, c'est de sortir de prison. J'ai demandé une suspension de peine, laquelle va être examinée entre septembre et octobre de cette année. Je reste optimiste parce que ma situation est très grave et même si j'ai perpète, j'y ai droit. Chez moi, je serai avec mes fils et mes petits-fils et là-bas, je serai bien entourée. Si j'ai pris la justice pour mon compte, c'est parce que je n'ai pas confiance en la justice. Pour moi, la justice est une pute. Béa. Voilà, donc ben nous aussi, on n'a pas trop grand-chose contre les putes, mais on comprend bien ce qu'elle veut dire, Béa. Et voilà, du coup, c'est possible aussi de lui écrire en demandant son adresse à l'envolée directement. Et voilà, on peut trouver l'envolée aussi, du coup, dans différents endroits à Marseille.
Il sera disponible notamment ce week-end au Festival de l'ABC.
Voilà, et du coup, bah, on peut envoyer aussi un son de Canine qui sera aussi ce week-end.
Le samedi soir, la sale gueule.
Allez, c'est parti.